la dernière partie de la grande table, Raphaël Bourgois.
Oui, Raphaël Bourgois, vous avez fait vous tromper tout à l'heure, Antoine.
Ouais, pas deux fois quand même.
Non, donc il faut bien que je signale quand même aux auditeurs que Caroline Bourret n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle est en congé. Hein, elle sera de retour dès lundi. Voilà qui est dit. On continue cette journée spéciale sur France Culture d'Alep à Calais face à l'urgence, avec dans cette dernière partie, un point, un focus, on va dire, sur le quotidien des réfugiés. Et ce quotidien, ce sont de plus en plus les camps, les hotspots, pour reprendre la terminologie bruxelloise. Camps en dur sous administration étatique, camps de tente où s'emploient les ONG, camps de fortune, jungle, où les associations essaient de maintenir un peu de dignité. Volonté d'ordre par le contrôle et l'expulsion du problème dans des espaces qu'on veut invisible, voilà comment on peut analyser l'existence de ces jungles. Mais vrai dilemme politique et moral, l'ordre et la morale, on en parle avec nos deux invités. Michel Agier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu un petit peu dans le journal, vous êtes donc anthropologue, chercheur et enseignant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. De vous, on peut lire La condition cosmopolite aux éditions La Découverte, c'était en 2013. Vous avez aussi dirigé Un monde de camps en 2014, ça nous sera très précieux évidemment pour cette conversation. Et puis votre dernier ouvrage, Anthropologie de la ville, aux presses universitaires de France, c'était en 2015, un ouvrage qui regroupait des réflexions sur la vie sociale, culturelle et politique dans les marges urbaines où évidemment sont relégués ces réfugiés. Et avec nous également Laurent Godet, bonjour.
Bonjour.
Alors Laurent Godet, vous êtes écrivain, on peut lire aussi de vous votre dernier roman, c'était Eldorado, pardon, un roman qui justement posait cette question des migrations à travers l'exemple de Lampedusa, c'était aux éditions Actes Sud, et vous publiez cette semaine un long texte dans l'hebdomadaire Le 1, un texte intitulé Sigil la frange, la France, et non pas la frange, Sigil la France, et qui est une véritable plongée, une plongée horrifique dans les camps de Calais et de Grande-Synthe, pardon. Vous y êtes allé, Laurent Godet, qu'est-ce que vous y avez vu?
J'y ai vu cette détresse-là, profonde, violente, à Grande-Synthe, effectivement, de manière particulièrement, j'allais dire spectaculaire, c'est pas un joli mot, mais disons dense. Je pensais pas voir ça en France, très sincèrement, et puis à Calais, de manière aussi extrêmement forte, parce que Calais, c'est la jungle de Calais, c'est quand même un monde. C'est presque une ville, un bidonville, je sais pas comment appeler ça. Mais c'est vrai que les conditions humanitaires de Grande-Synthe m'ont mis dans un état de, ce que j'essaie d'exprimer dans le texte, à la fois de profonde colère et de honte, effectivement, de honte par rapport à mon pays, par rapport à l'Europe. C'est pas que la France, bien sûr, hein, c'est un problème vaste. Et ce sentiment vraiment physique de se dire, à chaque pas que je faisais dans cette boue-là, ça n'est pas possible. Ça ne doit pas être possible.
On va y venir évidemment à ce sentiment de honte, à la question de l'Europe et de la France dans tout ça. Mais Michel Agier, vous étiez venu il y a presque un an maintenant parler notamment d'un monde de camps. Et puis de cette question se posait à l'époque, la question de savoir si le droit d'asile en était encore un. Et au cours de l'émission que j'ai réécoutée pour préparer aujourd'hui, vous disiez « J'attends ce moment où mon terrain de recherche viendra à moi et il sera dans mon propre pays. » On y est ?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et puis en écoutant Laurent Godet, c'est le monde nous rejoint, je dirais. Le monde nous rejoint où cette manière de découvrir, bon, par l'émigration, mais aussi là par la difficulté politique à résoudre quoi ces questions de mobilité qui existent à l'échelle internationale, donc à créer des camps, à créer des lieux de relégation, etc., fait que effectivement pour moi en tant qu'ethnologue je me dis je suis devant des scénarios, des paysages, des scènes qui sont les mêmes en tout cas en apparence que ce que j'ai pu voir pendant une quinzaine d'années au Libéria, au Kenya, en Zambie, au Proche-Orient, en Grèce, au sud de l'Europe. Et donc, moi aussi, d'une certaine façon, je me suis rapproché avec mes terrains jusqu'à venir à Paris, sous le pont Jaurès ou à Calais. Et donc, là, on voit bien, je pense qu'il y a un élément, bon, si on veut, garder ça. Il y a un élément qui est, on entre dans le monde, on entre dans la mondialisation, peut-être par une mauvaise porte, mais on entre dans la mondialisation. On réalise, on l'a dit un peu à propos du 13 novembre, on réalise qu'on est dans le monde et que finalement, on va pas pouvoir faire comme si on n'y était pas. Il faut, voilà. On est solidaire, on est organiquement solidaire, je dirais, de ce qui se passe à Khartoum, de ce qui se passe à Maïdougouri, au Nigeria, de ce qui se passe évidemment à Alep. Et donc ça, on ne peut pas faire comme si c'était pas vrai.
Mais être solidaire, est-ce que ça veut dire que précisément nous ne puissions pas résister à ces changements, cette mondialisation, pour conserver un pôle, je dirais, qui ne soit pas précisément la guerre, la misère, les camps?
Littéralement, solidaire n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la solidarité humanitaire ou la gentillesse. Être solidaire, c'est être dans une mécanique dans laquelle on est tous dépendants les uns des autres. Et je pense que c'est ça, la mondialisation. C'est comme ça qu'on perçoit la mondialisation. On le perçoit avec ces côtés-là. Et donc, je pense que le choc qu'on peut avoir avoir un certain nombre de situations, de conditions de très grande précarité, nous rapproche du monde. Moi, je pense que ça, c'est important de le dire. Ça nous rapproche du monde. Il faut en prendre conscience et se dire qu'effectivement, là, il y a un constat de solidarité. Après, reste à voir si on a une politique qui correspond à cette solidarité de fait.
Laurent Godet, cette comparaison que fait Michel Agier avec d'autres lieux où existent des camps, vous pouvez la faire aussi, puisque vous avez visité d'autres lieux en Haïti, je pense, par exemple, évidemment dans une situation différente, mais des camps de déplacés, des camps de réfugiés, des camps de gens qui n'ont plus de chez eux. Vous feriez ce parallèle, c'est-à-dire l'impression de voir le monde qui arrive en France?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que je parle sous le contrôle de Michel Agier qui connaît ça mieux que moi, mais je pense qu'effectivement, la grande spécificité de la jungle de Calais ou de Grande-Synthe, c'est que comme il s'agit, d'une impasse, du cul-de-sac, du bout de la route pour tous ces migrants, tous ces jeunes hommes qui arrivent d'endroits et de pays très différents, on est face à des camps, appelons-les comme ça, qui sont d'une énorme diversité ethnique, nationale, de langue, ce qui n'est pas du tout le cas dans les camps que moi j'ai pu voir effectivement à Port-au-Prince ou au Kurdistan irakien, avec les réfugiés syriens, où tous les réfugiés du camp que j'ai vu à Kavergosk étaient non seulement syriens, mais même kurdes syriens. Il y avait une sorte d'homogénéité profonde et forte. Ça rend pas la vie meilleure, mais c'est vrai qu'à Calais, il y a cette spécificité en plus, qui est qu'on est dans Babel. C'est un monde très étonnant, de proximité très forte. Les gens vivent côte à côte, dorment dans des tentes qui sont côte à côte, et il y en a un qui est érythréen et l'autre irakien ou iranien. Et nous, effectivement, tout d'un coup, quand on se promène dans ces allées-là, c'est vrai que le monde nous saute au visage, le monde entier dans sa diversité. Il faut pas non plus embellir les choses, il n'y a pas forcément de solidarité, il y a de la violence, il y a de la crispation au sein même de ces jungles et aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et je voulais juste dire ça par rapport à la honte. Ne jamais oublier, quand on parle de honte et de colère, que évidemment d'abord je l'ai ressenti vis-à-vis des jungles, mais qu'il y a vis-à-vis de Calais quand même aussi, et du Nord-Pas-de-Calais et de la région du Calaisie.
Vous voulez dire la situation dans laquelle se retrouve cette ville,
bien
confrontée
sûr,
seule
bien
à la situation?
Bien sûr, et je vois pas pourquoi on aurait peur de dire ça. On peut être de gauche et dire ça, on doit le dire, même si on est de gauche, si je puis dire. Je trouve que là, il y a une forme de vraiment d'abandon. Mais je parle même pas politique ou budgétaire, d'abandon, j'allais dire spirituel.
Vous allez plus loin, vous dites que ça nous engage, nous, tous Français, qu'on soit de Toulon, de Strasbourg,
J'aimerais, j'aurais adoré sentir une mobilisation française sur ce problème-là, qu'on soit effectivement de Montpellier, Béziers ou Brest. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas, ou Paris, pour citer Paris. Je pense que tant qu'on n'est pas confronté visuellement ou directement à la jungle, ou aux conséquences de la jungle. Et pour beaucoup de Calaisiens, ça se joue comme ça. Ils sont peut-être pas allés dans la jungle, mais ils ne peuvent pas voir les barrières, ils ne peuvent pas voir le paysage urbain qui se transforme autour d'eux, qui devient de plus en plus carcéral. Les barrières autour du tunnel, l'Eurotunnel, c'est quand même très impressionnant. Le port est une forteresse. Toutes ces choses-là changent l'appréciation des habitants vis-à-vis de leur propre ville et de leur propre vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça pèse dans la vie, sans même parler de pour qui on vote. Cette présence-là est difficile, il faut le dire et le redire, parce que c'est une manière, c'est pas grand chose, mais c'est une manière de marquer aussi, je trouve, notre solidarité vis-à-vis des Calaisiens et d'essayer de propulser un espèce de mobilisation nationale vis-à-vis de ça et européenne.
Mobilisation nationale qui prendrait quelle forme? Parce que vous dites qu'il y a une grande diversité, effectivement, à Calais. En même temps, il y a quelque chose qui rassemble tous ces gens qui sont venus d'un peu partout, c'est la volonté de partir de là, d'aller s'installer en Angleterre ou ailleurs. Comment vous imaginez donc, comment vous pouvez imaginer qu'on pourrait modifier fondamentalement cette situation, si ce n'est que d'apporter de l'aide simplement quotidienne?
La grande difficulté, c'est que s'il y avait une formule magique, on l'aurait utilisée tous, et moi je suis certainement le moins bien placé pour la brandir. Je suis écrivain, j'ai été là-bas pour témoigner. La même démarche qu'un journaliste finalement, mais avec mes outils à moi qui ne sont pas les vôtres, et les deux sont à mon avis justifiés dans ce genre de situation. Il n'y a pas de, je peux pas là vous proposer une solution directe. Par contre, et je rebondis sur ce que disait Michel Lagier tout à l'heure, je pense que faire pression les uns les autres dans nos domaines pour que ce sujet ne soit pas balayé par exemple un changement gouvernemental et soit de plus en plus au centre, un des centres de la réflexion électorale qui va avoir lieu là, ça me semble important.
C'est pour ça que nous faisons cette journée aussi sur France Culture.
Mais voilà, ça me semble vital. Il faut pas évacuer ce problème-là. Ça fait depuis 1999 que le premier centre de Sangatte a été ouvert. Rien que le nombre d'années est un scandale en soi. C'est-à-dire que ça fait 17 ans. Que ce problème existe. Donc essayons de faire en sorte que porter cette parole, c'est continuer à vouloir que cette question des migrants soit au centre des débats. Et je voulais juste dire, par rapport aussi à la présence de Denis Jambard qui était à mes côtés tout à l'heure, Michel Lagier en est la preuve, c'est un problème sur lequel beaucoup de gens réfléchissent depuis bien longtemps, et c'est un problème dont on sait, dont il sait mieux que moi, qu'il dessine probablement le 21e siècle. Denis Jambard parlait dans le 1 aussi de ce sixième continent, les 60 millions, alors je ne sais pas quel est ce chiffre, de gens déplacés, réfugiés possibles. C'est un enjeu énorme pour notre siècle à venir et pour nos sociétés, la nôtre, les sociétés européennes, les sociétés nord-américaines. On ne peut pas vivre dans un monde où on est à la fois connecté en permanence à tout le monde, avec les outils et tout ça, et ne pas vouloir que les gens se déplacent. Donc, voilà, c'est un bel enjeu politique en même temps. On peut y mettre de la passion.
Michel, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Laurent Godet. Je vais vous laisser réagir à votre guise, peut-être sur ce dernier point de la question de voilà comment cette question des réfugiés, c'est aussi la question de la mondialisation et de l'avenir, voilà, de notre avenir commun.
Oui, moi, je pense qu'il y a un phénomène général et assez constant qui est que pour que le monde existe, il faut que la mobilité puisse exister. Et donc, on voit bien qu'il y a un conflit dans le monde, pas seulement en France, pas seulement à Calais, pas seulement en Europe. Il y a un conflit dans le monde entre ce désir de mobilité que nous avons tous, finalement, et ce désir de contrôle qu'on peut avoir sur les autres, que certains États veulent avoir sur les autres qui circulent parce qu'ils seraient moins légitimes à circuler. Alors, on sait très bien qu'il y a certaines parties de la population mondiale, européenne, américaine, qui circulent assez librement dans à peu près toutes les parties du monde. Et puis, il y a une autre partie de la population mondiale qui, en réalité, est majoritaire, qui a énormément de difficultés, voire d'impossibilités à circuler. Je pense que ce problème-là, en dehors de toute question gouvernementale, politique, gauche-droite, etc., c'est la question de la mondialisation au sens de comment on fait le monde, comment on fait monde. Bon, voilà. Alors ça, après, vous me direz, bon, on peut revenir à Calais, c'est trop général. Je pense qu'à Calais, on a justement une absence de vision de la part de ce gouvernement qui consiste à faire des petites stratégies voulant d'un côté donner un signe sécuritaire, de l'autre un signe humanitaire. Et donc on arrive à une situation assez aberrante qui est que, alors qu'on a relativement très peu de monde, je parle évidemment sous contrôle et je ne minimise pas du tout ce que ressentent les Calaisiens, mais par rapport à toute la question européenne...
Oui, c'est-à-dire qu'on parle d'environ 5 000 personnes.
4 000, 5 000 personnes, on a un pourrissement de cette situation. J'ai l'impression que le gouvernement fait à Calais ce qu'il fait un peu partout, il laisse pourrir des situations qui pourraient se résoudre différemment.
Antoine, voilà, c'est sur une actualité tout à fait chaude.
Voilà, pendant que vous parliez, la préfète du Pas-de-Calais vient justement s'exprimer pour annoncer l'évacuation. Elle dit vouloir faire évacuer à peu près la moitié de la superficie de cette fameuse jungle où vivent, selon elle, 800 à 1000 personnes sur les 4000 migrants. Le temps est devenu de passer à une autre étape. Plus personne ne doit vivre sur la partie sud du camp. Qu'il faut penser de cette.
Oui, non, mais c'est ce qui est. Voilà, ça circule. C'est-à-dire, le gouvernement a l'intention qu'au 1er mars, il n'y ait plus rien en dehors du camp de containers, si vous voulez. Donc, ça, c'est. Si vous voulez, c'est une.
Qui compte 1500
places. 1500 places, on est à 1200 peut-être maintenant, etc. Donc, tout ce qui est autour, qu'on va appeler bidonville ou jungle, va être éliminé. Or, c'est dans cet ensemble-là, il faut bien voir que depuis le mois d'avril, on a eu. Un camp de regroupement, et moi je l'appelle un camp au sens fort, où c'est l'État dans son autorité sur le territoire qui a décrété que ces personnes devaient aller là et pas ailleurs. Un regroupement dans les pires conditions sanitaires, humanitaires, etc. Les gens, avec l'aide de certaines associations et aussi d'Européens, d'individus qui ont été indignés par cette situation, sont venus les aider, qui ont commencé à améliorer la situation, construire des églises, construire des mosquées, construire un lieu de théâtre, construire un lieu de culture, se rassembler, faire de ce lieu quelque chose qui a commencé à exister, qui était habité, et même un lieu où on faisait de la politique, on pourrait y revenir. Mais donc là, si vous voulez, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'intervention de l'État a consisté à dire on évacue les personnes qui sont là en regroupant 1500 personnes sélectionnées,
triées sur l'ensemble. D'ailleurs on les évacue.
Et donc on les remet dans les rances. Et on les remet dans les rangs. Et ça, c'est, je dirais que c'est presque ridicule de la part de ce gouvernement de recommencer cette mise en errance de gens qui, à un moment donné, ont dit bon, vous nous mettez là, on va essayer d'améliorer notre situation, on essaye. Au moment où ça pourrait éventuellement se stabiliser, on a fait l'encampement, on fait le décampement. On dit maintenant, vous décampez et on fait un surdéplacement et donc les gens vont se retrouver dans des trajectoires d'errance.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Il est 13h12 sur France Culture et nous continuons notre journée d'Alep à Calais face à l'urgence avec nos deux invités, l'écrivain Laurent Godet qui publie dans le 1 de cette semaine « Sigille à France », un article sur sa visite, on va dire, des camps de Calais et de Grande-Synthe et l'anthropologue, ethnologue Michel Agier, spécialiste de ces questions-là. Je crois que vous vouliez réagir, Laurent Godet, sur ce que disait Michel Agier juste avant.
Oui, sur la nouvelle que vous nous donniez tout à l'heure, sur la déclaration de la préfète du Nord-Pas-de-Calais. C'est le drame de cette grande et vaste question, c'est qu'elle est sans cesse et régulièrement prise en otage du calendrier électoral. On entre dans une séquence électorale, donc on va avoir une série d'annonces et de faits réels qui suivront les annonces. Ça, je ne mets pas en doute que ça va avoir des conséquences sur le terrain. Est-ce que ces choses-là sont faites en vue d'une réelle solution construite ou simplement d'un effet de rapidité par rapport aux échéances qui arrivent? Malheureusement, je crois que c'est plutôt la seconde solution. Moi, j'ai vu l'effet de cette première vague de ce que les Haïtiens appellent le déguerpissement du camp. Il y a eu d'abord un premier mouvement, effectivement, le long de la nationale ou de l'autoroute, là, pour dégager une zone tampon de 100 mètres de profondeur sur toute la longueur de la jungle, ce qui est déjà énorme, hein, parce que ça représente beaucoup, beaucoup de baraques en bois, de petites tentes qui ont dû se déplacer. C'est fait de manière calme parce que ça s'est plutôt bien passé, mais c'est d'une grande violence. C'est une grande violence parce qu'on pousse encore plus loin des gens qui n'avaient déjà nulle part où aller. On rend encore plus carcéral l'environnement de la jungle parce que maintenant, quand on arrive, les bulldozers ont repoussé un mur de sable qui monte. On cache aussi aux yeux des gens qui passent la jungle. Il y a une espèce d'enclave comme ça. Il ne faut pas négliger non plus la violence symbolique que tout ça apporte. Je pense concrètement que ces annonces sont aussi faites pour hâter le processus de déplacement vers les containers, parce que jusqu'à présent, ça ne se passait pas à la vitesse souhaitée. Les migrants n'ayant pas tous envie d'aller dans les containers, craignant que ça réduise ensuite les allées et venues et leur liberté de déplacement. Donc, c'est aussi une manière de dire, maintenant, il faut qu'on remplisse les containers. Ils vont probablement annoncer bientôt que d'autres containers arriveront et le camp de containers va grossir, certainement. Après, voilà, le passé ne nous pousse pas à beaucoup d'optimisme. Je rappelais la date de 1999 pour Sangatte, de la fermeture de Sangatte en 2002 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque. On est un peu échaudé, effectivement.
Vous pensez que c'est une question politique, évidemment, qui est déjà entrée dans le débat politique, mais on a l'impression que la réponse est déjà prononcée aussi par les peuples européens, puisque tout le globalement, il y a un raidissement. L'Allemagne même, qui était ouverte, se raidit. À l'instant, Manuel Valls affirme que la politique migratoire de Merkel n'est pas tenable dans la durée. On a le sentiment qu'il y a un moment donné où les politiques et les populations vont s'aligner, de toute évidence, sur ces positions-là. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est savoir, est-ce que ce n'est pas, à partir d'un certain seuil légitime, malgré tout, de considérer cette réaction comme une réaction normale pour une population, pour ne pas dégrader l'ensemble de la situation.
Alors, c'est politique, effectivement, et ça n'est pas une insulte. Je reprends le début de votre intervention, c'est politique, et c'est très bien. Moi, je suis très pour le politique. Le politique doit monter au créneau, doit se battre, il y a des gens à convaincre, il y a des lignes à faire bouger, et c'est politique. Mais je pense qu'elle se situe pas forcément dans des annonces de terrain, on a l'impression qui valent pour politique globale, plutôt que, effectivement, de faire ça à Bruxelles. Il y a sûrement une interrogation à avoir sur le traité du Touquet. Sur le rapport avec la Grande-Bretagne, il y a une interrogation globale à avoir sur l'Europe et sur notre désir d'hospitalité ou pas. Alors effectivement, vous avez raison, en ce moment, ça rend pas très optimiste tout ça. Mais un jour, on va se réveiller et le visage de l'Europe sera vraiment laid. Alors, c'est peut-être aussi à nous de dire que c'est pas ce visage-là. Moi, j'ai pas envie d'être européen. Si être européen, oui, ça veut dire ça.
Paradoxalement, ça, c'est en train de faire éclater l'Europe.
Oui. Oui, oui, ce qui montre bien aussi que c'est un sujet qui est au centre du projet européen. Enfin, en tout cas, de la manière dont on le traitera, naîtra ou pas une idée européenne vers laquelle on pourra aller avec passion. C'est pour ça que je pense que c'est un enjeu qu'il ne faut pas uniquement, comment dire, laisser à cette espèce de ligne extrême droite ou pas. C'est bien plus vaste que ça. C'est l'invention ou pas d'une hospitalité européenne qu'il faut cadrer. Hein. Je ne suis pas pour forcément ouvrir tout partout, mais puisqu'on sait que c'est un problème qui va courir pendant tout le 21e siècle, au moins, est-ce qu'on ne peut pas inventer une structure longue, pérenne, d'accueil, comme ça, d'hospitalité? Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut peut-être lancer maintenant, et puis sur l'Europe. Enfin, je veux dire, là, on est au niveau d'une réunion de copropriétaires qui rivalisent d'égoïsme. Je ne pense pas qu'Angela Merkel soit une trotskiste. Vraiment pas. Elle a, pour moi, à mon sens, été la seule voix qui nous sortait justement un petit peu de la honte. Ça m'a beaucoup surpris que ça vienne d'elle, mais j'admets que c'est la seule voix qui m'ait fait du bien ces temps-ci.
Michel Agier, vous aviez signé une tribune avec François Gémen, pardon, le chercheur à Sciences Po, en disant les 10 bonnes raisons d'ouvrir les frontières. Elle est là, la solution ? Ouvrir les frontières ?
Ouais, si vous voulez, une des manières de faire, parce que je pense que la question du droit à la mobilité, de l'évidence de la nécessité de la mobilité pour que le monde fonctionne, pour le dire dans des termes plus globaux, généraux, se met en pratique avec des exercices pratiques, si l'on peut dire, et ce qu'on constate, c'est qu'après cette semaine un peu particulière entre le 25 août et les premiers jours de septembre, où tous les dirigeants européens, à peu près tous les dirigeants européens, donnaient raison à Angela Merkel en disant « oui, il faut faire quelque chose, oui, nous pouvons le faire, des maires ont fait quelque chose, des préfets, des ministres, des associations se sont rendus plus visibles en disant « oui, nous avons les moyens d'accueillir », des tas de petites villes, de villages, d'associations ont organisé les conditions de l'accueil, et on se trouve aujourd'hui à des situations très étranges où certaines petites villes ou certaines villes ont des résidences, des lieux d'hébergement prêts pour des migrants. Et il reste inoccupé. C'est qu'il y a un niveau où ça ne marche pas, et c'est le niveau supérieur. Donc moi, je suis effectivement pas non plus d'accord avec l'interprétation, on va dire, populiste, ou le peuple ne veut pas. Le peuple, il est partagé, le peuple, il peut être hospitalier, les gens sont hospitaliers. Il existe deux grands domaines de l'hospitalité, c'est l'hospitalité privée, j'accueille chez moi qui je veux, et l'hospitalité publique, je demande à mon État qui me représente de prendre en charge cet accueil.
L'hospitalité, ça nécessite quand même qu'il y ait une habitation, qu'il y ait des sédentaires, précisément, qui soient en quelque sorte chez eux et qui accueillent.
Bien sûr, oui.
C'est ça la question.
Mais ce qu'on a pu voir dans les jours de septembre, c'est qu'il y avait une volonté de la part de suffisamment de gens pour accueillir. Il y avait de la place, il y avait des conditions possibles. Beaucoup de gens l'ont dit à ce moment-là, et même Valls l'a dit à ce moment-là. Et puis ça a disparu. Ce qui s'est passé, c'est effectivement, et là je pense qu'il y a un problème qui, à propos de quoi la question migratoire est simplement exemplaire, c'est que alors qu'il y a eu un accord demandé par la Commission européenne, demandé par Merkel, pour se répartir 160 000 personnes statutaires, hein, c'est pas, on n'est pas dans un problème de clandestin ou je ne sais quoi. Moins de 500, je crois, ont été effectivement accueillis. Et là, moi, je me dis, mais c'est aberrant. Là, on est dans une inexistence de l'Europe. Alors que le moment où il avait été dit, oui, nous sommes l'Europe et nous vous accueillons, à ce moment-là, l'Europe a existé. Et puis, tout d'un coup, ça n'est plus l'Europe. C'est not in my backyard, pas dans mon jardin, chez l'autre, mais pas chez moi, etc. etc. Un peu la République des propriétaires dont parlait Laurent Godet.
Laurent Godet, vous dites dans votre article, quelle est une défaite pour ceux qui échouent et pour nous qui ne savons que faire ?
Oui, mais je voudrais dire aussi que il y en a quelques-uns qui sauvent l'honneur. Et pour reparler concrètement de Calais, je pense aux associations calaisiennes qui sont nées du terrain, comme l'Auberge des Migrants, comme Salam, comme la Vie Active aussi, qui gère le centre Jules Ferry. Autant d'associations qui vraiment me sauvent l'honneur au sens où on sent non seulement qu'elles prennent à bras le corps le problème et qu'elles aident profondément les gens, et sans ces associations, je pense que ça fait bien longtemps que la situation aurait explosé, mais en plus, elles le font avec passion. Et vraiment, moi j'ai senti au contact de ces gens-là une énergie qui est peut-être justement ce dont on parle et dont on déplore l'absence à un niveau plus global. Souvenez-vous aussi des Allemands accueillant les premiers réfugiés, cette espèce de mobilisation du peuple allemand qui avait fasciné tous les pays voisins. On était très admiratifs et envieux de cette énergie-là. Donc elle existe, elle n'a pas disparu, ces gens-là ne sont pas morts.
Elle a quand même disparu.
Elle a disparu politiquement, mais si demain on faisait entendre une autre voix politique, je suis pas sûr que ces gens-là seraient pas capables de se remobiliser. Simplement, il y a un espèce état de crispation à l'heure actuelle, de réduction. On imagine que les marges de manœuvre politique sont archi réduites, et donc chacun est sur son pré carré.
Et le rôle de Cologne là-dedans, par rapport à l'Allemagne ?
Dans Cologne, Antoine, il faut quand même préciser pour nos auditeurs.
Voilà. Les agressions qui ont été en grand nombre constatées, enregistrées autour de la gare de Cologne, le jour du Nouvel An, qui a fait que l'opinion allemande semble avoir basculé et que c'est un sujet qui préoccupe.
Ben c'est un sujet préoccupant, évidemment. C'est un sujet préoccupant pour les jeunes femmes qui ont été agressées. C'est un scandale total. Ça crée du sentiment et de la réalité de d'insécurité. La tension est permanente à Calais et à Grande-Synthe entre le sécuritaire et l'humanitaire. Et les associations qui travaillent sur le terrain le savent, elles peuvent aller jusqu'à un certain point où tout d'un coup le sécuritaire dira non, là, nous, on décide qu'il faut dégager cette bande-là, il faut laisser libre accès pour que les CRS puissent intervenir et lancer des gaz lacrymogènes. Cette dualité-là du sécuritaire et de l'humanitaire, il faut la prendre dans sa totalité. Ou alors on est un utopiste, on dit on va faire que de l'humanitaire et il n'y aura plus de sécuritaire, ça n'existe pas. Et l'inverse est dangereux aussi. Donc il faut prendre cette chose-là dans sa dualité, entendre aussi peut-être un peu le désir de sécurité qui est parfois réel. Je pense à Grande-Synthe par exemple. Grande-Synthe, c'est immonde, c'est scandaleux ce qui se passe à Grande-Synthe. L'état d'accueil, les gens vivent comme des bêtes, ils le disent eux-mêmes et ils en sont en état de choc profond. Mais on peut aussi entendre, et il y a eu une fusillade à Grande-Synthe une nuit il n'y a pas très longtemps, que pour les gens qui vivent à 20 mètres de là dans un petit pavillon, c'est angoissant. C'est vrai. Donc voilà, c'est une tension permanente à trouver. C'est là où on a besoin d'hommes politiques de qualité. Le maire de Grande-Synthe est un homme bien qui essaye de gérer ça, je crois, vraiment avec autant de subtilité qu'on peut faire dans ces cas
et
difficiles.
Et un peu tout seul, hein, parce qu'il semblerait que les lettres...
Il est scandaleusement tout seul. Il a dû frapper à la porte un nombre de fois incalculable pour que l'État bouge.
Michel Agier.
J'évoquais tout à l'heure les deux formes de l'hospitalité, privée, j'accueille chez moi qui je veux, et publique. Et c'est là où on a à faire attention à ce qui se passe entre on met des gens dans des camps ou bien on réfléchit à qu'est-ce que c'est que l'hospitalité publique. Je pense qu'il existe des maisons de migrants, il existe des maisons de réfugiés, c'est-à-dire des lieux où on ne prend pas position, on va dire, sur le fait que le monde fonctionne avec de la mobilité, le fait qu'entre un Syrien et un Irakien, on va pas aller regarder lequel a été réellement persécuté à tel endroit, dans telle ville, et l'autre peut-être non, ou bien un Érythréen et un Nord-Nigérian, par exemple, et que donc, à ce moment-là, on dit ces lieux sont des lieux où, effectivement, on assure... Au minimum, l'État assure au minimum, avec les associations, et beaucoup d'associations à Calais ou ailleurs l'ont déjà fait et sont prêtes à le refaire, on assure cette hospitalité publique, c'est-à-dire non pas seulement là les individus, mais la capacité de l'État, sa capacité financière, sa capacité d'hébergement, à fournir dans des lieux ouverts des conditions sanitaires, des conditions psychologiques, des
Combien
conditions...
de places
Pardon ?
Combien de places il faudrait ?
Mais il y a énormément de possibilités.
Enfin, je pose la question.
Mais les places existent déjà, ça c'est déjà... Non, mais les places existent déjà. Et puis faire ces lieux-là, ça n'est pas... ça a été fait dans d'autres situations de crise bien plus importantes, en tout cas pour la France. Je veux dire, on est tellement loin de ce qui se passe en Allemagne ou de ce qui se passe en Hongrie que bien évidemment, on pourrait faire énormément plus en France sans que ça remette en cause les structures sociales du pays, les structures culturelles, ethnique ou je ne sais quoi.
Oui, Michel, je pense comme vous que on parle là, si on fait la jungle de Calais plus Grande-Synthe, on est à 6000 personnes maximum, 6-7000 personnes. Je ne peux pas croire que la France n'ait pas une capacité d'accueil de cet ordre-là, bien évidemment. Mais ceci dit, il faut peut-être juste préciser une petite chose qui, à mon avis, crée une difficulté et qu'il ne faut pas taire non plus. C'est que Calais, est-ce que Calais n'est pas aussi un peu spécifique en ce sens que on n'est pas dans un cas de figure où des migrants viendraient en France en disant on voudrait rester en France. Le rêve qui bruisse à Calais dans toutes les allées, c'est l'Angleterre. Donc et c'est justement le tiraillement actuel, c'est qu'on tente de dire à ces jeunes hommes-là restez en France ou partez en Allemagne, ils ne veulent pas. C'est l'Angleterre. L'Angleterre est dans toutes les têtes. L'Angleterre, c'est le désir final. Et donc on est effectivement par rapport à des vagues de migration précédentes comme les Boat People ou comme les Chiliens, où tout d'un coup la France était l'objectif. Et donc la France devait se dire est-ce que j'accueille ou pas, et elle l'a fait et elle l'a bien fait. Et ça s'est bien passé, et on n'est pas devenu plus chilien pour autant, donc ça montre bien qu'on sait le faire. Là, il y a une petite difficulté qu'il ne faut pas taire, c'est que c'est pas leur but, nous sommes une étape du chemin.
À l'appui de ce que vous venez de dire, Laurent Godet, il y a un article dans le 1. La France a réussi cet exploit de se rendre inhospitalière. Ce sont les mots de Michael Neumann, qui est le directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières. C'est vrai que c'est une donnée nouvelle, Michel Agier.
Oui, je crois que ça nous engage dans d'autres débats, dans d'autres questions.
Et on a plus le temps, puisque vous entendez le mood qui sonne la fin de cette
émission. Mais c'est pour ça que je parlais du traité du Touquet. C'est aussi un rapport avec l'Angleterre qu'il faut avoir maintenant.
Non, mais plus globalement, c'est la question de la mobilité. Faciliter la mobilité, c'est aussi faire que les gens qui n'ont pas envie de se fixer ne se fixent pas. Et donc ceux qui sont inquiets de la fixation des étrangers seront tranquillisés par le fait de savoir que cette mobilité existe. Et le désir final, comme vous dites, de l'Angleterre, à partir du moment où les gens iront, peut-être qu'ils auront envie d'en repartir. Et c'est ça où la liberté de circulation peut tout changer.
C'est celui d'Anouar Brahem, Astrakhan Café. Vous nous avez demandé expressément ce titre, Michel Agier. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission et pour cette journée spéciale qui évidemment continue sur France Culture. Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund, Les Nouvelles Vagues de Marie Richeux, Du Grain à Moudre. Bref, toutes les émissions de France Culture sont mobilisées pour parler de cette question des réfugiés. On peut vous lire, Michel Agier, évidemment lire votre dernier ouvrage Anthropologie de la vie. On peut vous lire également, Laurent Godet, dans le dernier numéro du 1, le magazine hebdomadaire qui se consacre évidemment à cette question, une honte française, voilà, c'est ce que vous avez essayé d'exprimer. Ici, on peut aussi lire l'excellente revue Tous Urbains, l'excellente revue publiée aux Presses Universitaires de France qui consacre un dossier aux espaces des migrants et Voilà, il me reste à remercier toute l'équipe de La Grande Table, c'est Jeanne Aléos, Clémence Marie, Henri Leblanc et Antoine Sims, à la réalisation Philippe Baudouin, à la technique Emmanuel Dupuis.